Cette émission est une reprise.
Salut, bienvenue à Point de vue. Cette semaine, on s'arrête à Miramichi, Fredericton, Chétiquan, Toronto et Winnipeg, la ville de Chétiquan qui inaugure les espaces de son nouveau canton culturel, un lieu de rassemblement et de développement communautaire.
Je disais justement, on est en train d'accueillir tout le monde à l'entrée, puis ça, ça m'a comme tapé que c'était finalement fini, puis qu'on était en train de célébrer son ouverture. C'est vraiment émouvant. Hein? Vraiment, je pourrais pas être plus fière de ce bel établissement.
L'Union nationale métisse de Saint-Joseph du Manitoba a une nouvelle présidente. Christal Desrosiers militera en faveur de la reconnaissance des droits des métis au Manitoba.
J'ai vraiment hâte à sauter dans le canot. Le bon moment est arrivé pour moi, vraiment. Et c'est pour mes enfants aussi que j'entreprends ce rôle. D'une façon, vraiment, je souhaite pour eux qu'ils apprennent l'importance de faire partie de notre communauté métisse.
Les amateurs de littérature se régalent une fois l'an des livres rares mis en vente par la Bibliothèque publique de Toronto.
Moi, j'ai trouvé des livres très, très, très chers. Oui. C'était juste $2.
Crise du logement, on en veut plus à la ville de Shawinigan au Québec qui planche sur des projets intergénérationnels. Et au Nouveau-Brunswick, un district scolaire francophone attaque son gouvernement en justice.
On essaie de mettre la pression pour que les choses se réalisent.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Merci de nous tenir en compagnie. Boris Chassagne avec vous. Prenons d'abord la direction de la Nouvelle-Écosse où le nouveau canton culturel de Chétiquan vient d'inaugurer ses nouveaux locaux. La nouvelle structure attachée à l'école NDA se veut un lieu d'expression artistique mais aussi de rassemblement et de développement communautaire. C'est ce que nous confirme en tout cas Cyril Camus, président du Conseil des arts de Chétiquan, qui précise que le nouveau centre permettra d'accueillir des conférences et des événements majeurs dans cette région acadienne. Notons que le Conseil des arts de Chétiquan est l'un des seuls au Canada à avoir une entente de co-gestion avec un conseil scolaire, soit le Conseil scolaire provincial acadien. Pour nous en parler, voici Daniel Aucoin à Chétiquan, Nouvelle-Écosse.
Les gens de la région de Chétiquan se sont rassemblés pour célébrer l'ouverture officielle du tout nouveau canton culturel attaché à l'école NDA. Le canton, comprenant une grande salle de conférence, un théâtre multifonctionnel, des espaces de travail, une galerie d'art, des ateliers d'artistes et un café, promet d'attirer bien des gens pour toutes sortes d'événements. Diane Racette, présidente du Conseil scolaire acadien provincial, souligne que le nouveau canton culturel permettra aux élèves et aux gens de la communauté de vivre des expériences culturelles authentiques.
C'est un projet très important. Je veux dire, pour nous, c'est l'éducation, c'est plus que juste dans l'école. L'éducation, c'est aussi dans la communauté. Alors, ceci, c'est une opportunité là, pour agrandir l'espace francophone pour nos élèves. Il faut comprendre qu'au CSAP, on a ce qu'on appelle un double mandat. Alors oui, on a le mandat éducatif des programmes d'études, mais on a aussi un mandat culturel et langagier qui s'étend là, à la communauté. Alors nous, on dit toujours l'école dans la communauté et la communauté dans l'école.
Cyril Camus, président du Conseil des arts de Chétiquan, a laissé entendre qu'il y a eu beaucoup de défis au cours des années pour trouver le reste du financement afin de pouvoir compléter l'édifice. Le président souligne que le Conseil scolaire acadien provincial a été un partenaire très important pour assurer la réalisation du projet.
Sans le CSAP, on n'aurait pas été capable de terminer le projet. Je veux dire, on a eu des grandes sommes d'argent pour terminer le projet. La gestion du travail, des finances, la construction. Le CSAP s'est occupé de toute cette partie-là. Nous, on était un partenaire. Mais sans le CSAP, on n'aurait pas pu le réaliser. C'était une condition. Alors, on est tellement reconnaissant au CSAP d'avoir mis le temps et l'énergie pour terminer le canton culturel.
C'est Stéphanie Craig d'Halifax, mais originaire de Chétiquan, qui a proposé le nom « canton culturel » pour ce nouvel édifice connexe à l'école NDA. Selon elle, le mot « canton » veut dire qu'il y aura beaucoup d'activités qui se passeront dans le nouvel édifice.
Vraiment, ça fait depuis, je crois, 2016 qu'on sait que cet établissement ici allait être ajouté à l'école NDA. Puis, je disais justement, on est en train d'accueillir tout le monde à l'entrée, puis ça m'a comme tapé que c'était finalement fini, puis qu'on était en train de célébrer son ouverture. C'est vraiment émouvant de penser que les futurs les artistes de la scène ou même les moins jeunes vont pouvoir venir puis se rassembler, profiter de ces espaces. On souhaite même que l'espace ne va pas seulement être utilisé par des artistes, mais va être utilisé par des gens qui veulent venir louer des salles, que ce soit pour des célébrations, que ce soit pour le travail, pour exprimer leur créativité. Alors, je pense vraiment que ça va être un grand ajout à la communauté et même au comté d'Inverness, le fait qu'un centre comme ça existe, puis que les fenêtres nous démontrent la beauté de Chéticamp puis du Havre. Vraiment, je ne pourrais pas être plus fière de ce bel établissement.
Le nouvel espace permettra à la communauté de Chéticamp d'offrir une programmation riche en arts et en culture. Rappelant qu'au cours des années, le Conseil des arts de Chéticamp s'est distingué comme l'un des conseils des arts régionaux les plus actifs en Nouvelle-Écosse. Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
L'Union nationale métisse de Saint-Joseph du Manitoba entre dans une nouvelle ère sous la direction de Crystal Desrosiers, qui vient d'en être élue présidente le 19 septembre dernier. Cette élection marque un tournant pour l'organisation. Crystal Desrosiers succède donc à Paulette Duguay, qui a dirigé l'Union métisse pendant près de 10 ans. La nouvelle présidente, Crystal Desrosiers, œuvre au sein de cette union depuis plus de 20 ans. Elle a contribué à de nouveaux projets et milité surtout en faveur de la reconnaissance des droits des Métis et la préservation de la culture métisse au Manitoba. Nous avons, dit-elle, appris beaucoup de choses, mais il reste encore tant à faire pour renforcer notre identité culturelle et faire entendre nos voix. Gaël Mpoyo nous a préparé ce qui suit.
Crystal Desrosiers a défini certaines de ses priorités. Elle souhaite renforcer la visibilité de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, améliorer la collaboration avec d'autres organisations autochtones et francophones et poursuivre les efforts pour garantir le droit de Métis au Manitoba.
Premièrement, c'est une grande honneur pour moi. C'est juste hier, on a eu l'AGA. Et puis, oui, beaucoup d'excitement, beaucoup d'énergie. J'ai vraiment hâte à sauter dans le canot et commencer le travail avec l'équipe. D'abord, j'ai différentes raisons. Comme l'Union, évidemment, me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et puis, c'est quelque chose que je songe depuis longtemps. Et bien, le bon moment est arrivé pour moi, vraiment. Et puis, d'une autre façon, je trouve que c'est pour mes enfants aussi que j'entreprends ce rôle. D'une façon, vraiment, je souhaite pour eux qu'ils apprennent l'importance de faire partie de notre communauté métisse et de faire partie, donner son temps à la communauté aussi. Alors, c'est une décision, une grande décision que j'ai prise, mais comme j'ai dit, le bon moment est arrivé pour moi.
Alors, Crystal, quels sont, selon vous, les principaux défis que doit relever l'Union nationale métisse Saint-Joseph aujourd'hui?
Bon, d'abord, c'est pas mal une grande question, mais puis il faudrait que j'en songe plus, mais d'après moi, une des choses que j'ai remarqué les dernières années, c'est pour nous, c'est un manque de ressources humaines. Comme on vient juste de commencer de recevoir des fonds opérationnels, on a 2 employés. Il y a une grande soif dans la communauté pour apprendre à propos de la culture métisse. Donc, je trouve que en tant que défi, ça s'en est un. Aussi, c'est nouveau pour nous grandir de cette façon-là. On a toujours été pas mal petits. Donc, un autre défi, ça va être de penser à comment qu'on peut grandir d'une façon qui garde qui ce qu'on est.
Alors, quelles sont vos priorités immédiates en tant que nouvelle présidente?
Je me suis fait demander la question hier aussi. Et puis, ça aussi, je trouve que c'est une grande question. On a un nouveau CA. Alors, vraiment, pour moi, ma première priorité, c'est j'apporte un souper pour Paulette Duguay ce soir, l'ancienne présidente, la présidente sortante, et puis on va jaser, je vais entendre ses conseils. Je veux vraiment connaître notre CA. On a une nouvelle équipe, certains nouveaux membres, certains membres qui sont avec nous pendant longtemps. J'ai aussi l'idée en tête de connaître le nouveau directeur général, Richard Turenne, pour qu'on puisse se connaître et revoir notre plan stratégique et planifier pour le futur ensemble.
Alors, votre prédécesseur, qui est bien Paulette Duguay, qui a laissé une empreinte importante après 10 ans à la tête de l'organisation, comment envisagez-vous de poursuivre son travail tout en apportant votre propre vision?
Bonne question. Pour moi, elle sera avec moi pour me guider. Je vois vraiment, surtout cette première année pour moi, dans ce nouveau rôle, comme une année de mentorat dans mon cheminement. Donc, je me sens vraiment bien soutenue par elle. Et puis, j'aimerais vraiment écouter nos membres pour voir c'est quoi les choses importantes pour nos membres, comment est-ce qu'on devrait prendre ces choses et mettre en pied ces choses, est-ce qu'on est dans la bonne direction, comme je vais entendre qu'est-ce que nos membres vont dire, et aussi bien sûr notre CA pour déterminer c'est quoi notre vision collective.
Alors la communauté métisse fait face à des enjeux de reconnaissance et de préservation culturelle. Comment envisagez-vous de renforcer la visibilité et le droit de métis au Manitoba?
C'est une grande question. Surtout, ça c'est une autre grande question. Pour moi, vraiment, on va continuer par l'avant. On va continuer de grandir dans le cheminement. On va continuer de tisser les liens importants dans la communauté pour continuer de renforcer notre visibilité. Alors, je dirais ça pour maintenant. Il y a peut-être autre chose que j'ajouterais d'ici 6 mois, mais jour 1, là, c'est là où que je commencerai.
Alors, pour finir, Crystal, quel message aimeriez-vous transmettre à la communauté métisse ainsi qu'à tous ceux qui soutiennent votre mission alors que vous entamez ce nouveau chapitre?
Donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup? Je veux vous entendre. Je veux entendre ce que les membres ont à dire, les suggestions, les choses qui sont importantes pour eux. Je vous invite à venir jaser avec nous. Je vous invite à venir participer à nos belles initiatives, des beaux projets, des ateliers de toutes sortes.
Lors de cette même Assemblée générale annuelle, plusieurs autres membres du conseil d'administration ont été réélus et élus, créant ainsi une équipe solide pour soutenir Crystal Desrosiers dans ce projet. Justin Johnson a été réélu comme vice-président alors que Joël Tétrou a conservé son poste de secrétaire et Daniel Dupont a été élu trésorier. Brigitte Graft a été élue adjudante, tandis que Mona Moquin, Éric Plamondon, Baudry Labossière et Bernie Morin ont été élus en tant que conseillers. Ce conseil diversifié et expérimenté est prêt à travailler de concert avec la nouvelle présidente pour relever les défis à venir. Winnipeg, Gaëlle Pouillou, Corrigiel.
Vous écoutez Point de vue.
Le conseil d'éducation du district scolaire francophone sud est passé de la parole aux actes et dépose un avis de poursuite contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que le conseil d'éducation du district scolaire francophone sud tente depuis des lustres de faire bouger les lignes et de contraindre le gouvernement Higgs à se compromettre sur quelques 16 dossiers de construction ou d'agrandissement d'écoles francophones depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouvernement progressiste conservateur de Blaine Higgs. Aucun nouveau chantier n'est sorti de terre, si ce n'est celui d'une seule école, l'école Claudette Bradshaw. Michel Côté, président du conseil d'éducation du district scolaire francophone sud, est au micro de Sébastien Caron à Fredericton au Nouveau-Brunswick.
En fait, ce qu'on demande dans la poursuite, c'est de, finalement, on demandait dans la mise en demeure qu'on avait faite au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, on avait demandé au gouvernement de nous fournir un plan de 10 ans qui comprenait tous nos besoins d'infrastructure. Donc, on a 16 projets en tout, 7 nouvelles écoles et puis 9 projets d'agrandissement ou des projets de mi-vie. Et puis, à ce moment-là, on avait donné jusqu'au 5 juillet pour avoir une réponse. 31 août, pas de réponse. Il y a seulement une communication courriel entre le ministère de l'Éducation et le district disant qu'il n'était pas prêt. On regarde à l'automne, peut-être à l'hiver. Donc, pour nous, c'était assez. Mm. Ça faisait 5 mois qu'on leur avait donné pour fournir le plan. Et puis, mais 5 mois, ça s'additionne à la dizaine, la douzaine d'années qu'on a demandé les écoles. On a demandé ces écoles-là à chaque année. Et puis, donc, c'est pas nouveau pour le gouvernement, cette demande-là. C'est juste que là, on essaie de mettre de la pression pour que les choses se réalisent.
La campagne électorale a été lancée. On sait que ça va paralyser beaucoup de choses dans les semaines qui viennent et que, évidemment, ce dossier-là n'avancera pas avant les élections. Par contre, est-ce qu'il y a quand même des contacts qui auraient été repris avec des membres du gouvernement ou est-ce qu'il y a des contacts qui ont été pris avec des candidats qui se présentent face au gouvernement actuel?
Les partis sont au courant de nos demandes. Pour nous, peu importe s'il y avait une campagne ou pas, ça va nous permettre, à la fin de la campagne, de pouvoir travailler avec le gouvernement qui sera en poste à ce moment-là. Que ce soit vert, conservateur, libéral, nous, on va travailler avec ceux qui sont là. Et puis, si c'est un gouvernement libéral, par exemple, ben, eux autres, ils auront le luxe de pouvoir dire que c'est pas eux qui auraient fait autrement puis qu'on serait pas rendu là. Donc, on pourra peut-être ouvrir la conversation un peu plus facilement. Mais même si c'est les conservateurs, nous, on est prêts à négocier pour en arriver à une entente parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'aller au bout de ça, mais on va le faire s'il le faut. Mais on aimerait beaucoup mieux résoudre ça le plus rapidement possible et passer à l'action parce que c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est nos écoles.
Est-ce qu'il y a eu des réactions suite à cette poursuite de la part du public, de la part d'enseignants, de la part de, pourquoi pas même d'élèves?
On a eu des commentaires d'encouragement, surtout de parents qui commencent à en avoir assez là, du fait que soit qu'ils doivent conduire une heure et demie pour amener leur enfant à l'école ou qu'ils ont des classes doubles ou que leurs enfants sont dans des roulottes. Et puis les enseignants aussi, sur leur environnement de travail, ils sont là 8, 9 heures, 10 heures, des fois plus que ça par jour. Donc, il faut être en mesure de s'équiper. Puis fournir des espaces scolaires, c'est le minimum. On se doit d'offrir des espaces scolaires de qualité à nos enfants. Tu sais, on a un personnel dévoué qui va tout faire en leur mesure pour pouvoir offrir quand même une éducation de qualité malgré les circonstances dans lesquelles ils sont. Au bout de la ligne, ça prend ces écoles-là, puis ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de nouveaux projets d'annoncer. Donc, on est rendu dans un goulot. Si les investissements auraient continué au cours des 6 dernières années, au moins on serait, comme on dirait, la roue tournerait, là, mais là, présentement, la roue, elle a arrêté en 2018.
Ouais. Donc, je reviens sur le jour où on s'est parlé, la dernière fois qu'on s'était parlé pour évoquer ces éventuelles poursuites qui maintenant sont d'actualité. À la même heure, au même instant, le Premier ministre Blaine Higgs publiait sur les réseaux des financements donnés aux districts anglophones. Comment on ressent ça du côté du district?
Pour nous, la position qu'on a là-dessus, c'est que qu'il y ait des investissements dans les écoles anglophones, on se réjouit de ça, là. On n'est pas contre ça. On ne fait jamais une dépense d'école. Avez-vous déjà vu, on construit une école puis elle est vide, là. Quand on construit une école, là, l'année de la rentrée, là, c'est presque plein, là. Donc, si ces écoles-là ont été annoncées du côté anglophone, c'est parce qu'il y avait un besoin, puis le besoin était réel. Présentement, on a une étude qui démontre que dans notre grande région de Saint-Jean, on a présentement à peu près 1000 élèves, là, si on compte Samuel de Champlain et les pionniers, là, peut-être un petit peu plus, là, environ ça. On pourrait aller chercher au moins 5600 autres élèves si tous les enfants qui sont ayant droit à aller à l'école francophone, puis on n'en manquait pas un, on aurait 5600 élèves de plus.
Donc ici, aujourd'hui, c'est moins de 20% des ayants droit qui y ont droit.
Exactement. Donc, il y a une perte énorme, puis c'est la même chose à Miramichi, avec des chiffres différents, là, mais un gros pourcentage. Fredericton aussi. Puis, ce qui arrive, c'est que ces enfants-là qui vont à l'école anglophone, parce que l'école anglophone est à 2 minutes de marche de leur maison, ça fait en sorte que ces enfants-là ne peuvent plus perdre leurs droits. Donc, ces enfants-là ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école francophone. Donc, ça a un impact majeur par rapport au poids démographique de la population francophone, anglophone du Nouveau-Brunswick. Donc, on sent qu'on a un rôle important à jouer. Donc, c'est pour ça que ça surprend du monde des fois quand on leur dit, ben oui, on a besoin d'une école à Saint-George, puis on a besoin d'une école à Sussex. Ben oui, on a déjà eu des élèves de Sussex qui sont venus à Samuel-de-Champlain. C'est clair que ces écoles-là vont se remplir. Puis en même temps, ça va enlever un stress sur les écoles anglophones. Parce que les écoles anglophones sont remplies de francophones ayant droit. Donc, on dessert la communauté en général. Là.
Merci Michel. On va suivre le dossier de
travail. Oui, ça me fait plaisir.
Une entrevue réalisée dans le cadre du programme Initiative Journalisme Local.
Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
La crise du logement frappe les locataires partout au pays et force souvent les municipalités à réfléchir autrement. C'est le cas pour la ville de Shawinigan au Québec qui cherche de son côté à implanter des mécanismes qui permettent de multiplier le nombre de logements intergénérationnels. La municipalité a d'ailleurs décidé d'assouplir sa réglementation en lien avec le développement de logements d'appoint. Marc-Antoine Langlois, chef de division planification et développement au service d'aménagement du territoire à la ville de Shawinigan, est au micro de notre nouveau collaborateur Robert Savard à Maskinongé au Québec.
À l'instar de bien d'autres municipalités du territoire, Shawinigan doit composer avec une importante pénurie de logements. Le taux d'inoccupation se situe aux alentours de 0,7%. L'administration municipale essaie de bonifier son offre en proposant aux propriétaires de construire des logements d'appoint. Cela veut dire que les propriétaires qui le souhaitent peuvent désormais ajouter un logement attaché ou détaché à leur résidence principale, et ce pour location. Cette nouvelle mesure vient, en quelque sorte, remettre le cadre réglementaire au goût du jour. M. Marc-Antoine Langlois est chef de division planification et développement durable au service d'aménagement du territoire à la ville de Shawinigan.
À Shawinigan, les logements d'appoint étaient seulement permis dans une résidence principale et puis devaient absolument être occupés par un membre de la famille du propriétaire occupant. Donc, nous, on est venu modifier ça à l'effet que ça peut être loué à n'importe quel tiers dorénavant.
Il y a aussi diverses contraintes à respecter, notamment par rapport au type de logement.
Ça peut être autant un bâtiment, autant un logement indépendant de celui qui est dans le bâtiment principal qu'un logement qui partage là, certaines pièces ou aires communes. Je vous dirais également que le logement d'appoint doit être desservi par les mêmes réseaux publics d'aqueduc, d'égout, électricité, etc., que le bâtiment principal.
Il faudra compter 30 jours pour l'obtention du permis dans la mesure où la demande comporte l'ensemble des documents requis. Robert Savard, Initiative de journalisme local, Shawinigan.
Cette édition de Point de vue est une reprise. Bon, les chineurs et collectionneurs se sont régalés cette semaine à la vente de livres rares et d'occasion à la Bibliothèque publique de Toronto. L'événement se tient chaque année depuis 2022 au Hall Beaton, dans le centre-ville de la Ville-Reine. Cette vente appelée Treasure Book Sale propose des livres spéciaux comme des premières éditions, les ouvrages signés. Ils proviennent de dons publics et sont vendus à partir de 2 $, défiant donc toute concurrence. Organisée par les amis de la bibliothèque, cette vente vise à lever des fonds pour soutenir des programmes de la bibliothèque publique et notamment ceux destinés aux jeunes. L'initiative a déjà permis de récolter plus de 3 millions de dollars. Près de 25 000 personnes y participent chaque année. Les amis de la Bibliothèque de Toronto qui gèrent également deux magasins de la ville appelés Bookends, où l'on peut trouver donc des livres d'occasion de fiction et de non-fiction, ainsi que des CD, des DVD et des vinyles pour 1 $ au moins si vous faites un tour là-bas. Régalez-vous. Marine Togali a joué le jeu et fouillé les sacs de quelques passants. Elle est à Toronto, en Ontario.
Qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui?
Étrange mix de philosophie et un peu de sociologie. Deux livres sur Marx et un livre sur la philosophie due à la loi. Alors, un mix.
Comment avez-vous entendu parler de cette vente?
C'était une amie de mon, une étudiante de philosophie.
Combien vous avez payé?
C'était 24 $.
Vous allez revenir demain et après ou vous avez trouvé votre bonheur?
Je pense que j'ai trouvé tout ce qui m'intéresse, mais peut-être les autres vont autour de la ville.
Cette vente propose des livres spéciaux et d'autres articles, notamment des premières éditions, des livres signés, des livres rares, des livres anciens et des objets de collection. La plupart des livres proviennent de dons du public directement dans la bibliothèque de référence de Toronto, qui organise aussi parfois des heures de ramassage pour les dons plus importants. Les bénévoles sont formés pour trier et évaluer les dons en fonction de leur qualité. Les prix commencent à 2 $, mais certains articles peuvent être plus chers s'ils sont particulièrement rares.
My name is Frank Villaconia,
and Mon nom est Frank Villaconia et je suis président de l'Association des Amis de la Bibliothèque publique de Toronto, chapitre Sud.
Et comment était la première journée?
C'est extraordinairement intense. On avait à peu près 200 personnes en ligne. On a ouvert à 9h30 et la file d'attente s'est finie vers 10h45. C'est stable depuis, c'est un peu la pause, mais c'est un jour en semaine, c'est un jeudi. On anticipe un peu plus de monde après 17h, après le travail, quand ils viendront. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture d'une autre vente. Nous avons l'impression que beaucoup de nos habitués et nos clients sont probablement à l'autre vente aussi. Mais on imagine voir plus de monde demain.
Qui sont les personnes qui viennent faire la queue à 9h30?
Ceux qui se présentent à 9h30 sont généralement les libraires sérieux, les collectionneurs et les autres qui vont avoir attendu pendant 2 ou 3 heures pour entrer et avoir droit au premier choix. Après ça, on a les gens intéressés, les semi-collectionneurs, les personnes avec des idées précises de ce qu'ils veulent. Ils ont entendu qu'on avait des livres d'art, donc ils veulent la primauté, des gens comme ça. Les purs et durs revendeurs de livres sont les premiers dans la file d'attente.
$22. Is it going to be cash or credit?
Debit, sorry.
Okay, no problem. It's just you have to...
Je suis Sonia.
Volontaire depuis 15 ans.
Donc là, vous vous occupez de vendre les livres. Vous êtes à la fin de la chaîne. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de ventes aujourd'hui?
Oui, beaucoup. C'est le premier jour. Alors, spécialement le matin, c'était très fréquenté. Après aussi, on s'attend que le dernier jour, le samedi, sera aussi très... succès. Enfin, on espère.
Les gens dépensent combien d'argent en moyenne?
Ça, c'est une vente spéciale. Oui, ça peut être 1 $ jusqu'au 100, 200, 500. Nous avons quelques livres très beaucoup plus précieux dans les vitrines, comme vous pouvez voir. Alors, ça peut faire même 1000.
J'ai cherché des bonnes books de jardinage et aussi pour cuisiner et aussi les livres de l'art. J'ai beaucoup d'intérêt, mais j'ai trouvé cette petite book de, qu'est-ce que c'est en français? Nouvelle...
New York,
oui. Mais c'est un vintage livre et j'ai trouvé le... Qu'est-ce que c'est? Le fond?
La police.
Oh, c'est très intéressant. Et aussi les petits cartes. J'ai trouvé les livres très, très, très chers pour moi. Oui.
Celui-ci a coûté combien?
Oh, c'était juste $2.
Est-ce que vous allez revenir? Vous faites souvent des ventes de livres?
Je vais chercher les livres utilisés, used, peut-être les livres de bon prix là-bas. Oui.
Merci. Okay. Bonjour, c'est Marine, à Toronto, en Ontario, et vous écoutez Point de vue.
Voilà qui complète cette 134e édition de Point de vue. Merci à nos vaillants journalistes Sébastien Caron, Gaël Empoyo, Daniel Aucoin, Marine Togali et notre nouveau collaborateur Robert Savard. L'émission Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa, soutenue par l'initiative de journalisme local. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Suivez toute l'équipe francophone de l'IJL sur fréquenceinfo.ca. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ciao! Prise de l'émission Point de vue.